Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Mathieu Davina. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous faites partie du centre de recherche du château de Versailles et je souhaite non pas aborder un lieu bien particulier, mais plutôt une thématique particulière. Il s'agit de l'hygiène et du confort au château de Versailles. L'hygiène qui fait l'objet de beaucoup d'idées reçues.
Oui, effectivement, on a coutume de dire à Versailles que les courtisans s'oubliaient derrière la plupart des rideaux, des corridors. Alors, il y a une véritable hygiène à Versailles, c'est-à-dire que le roi est très soucieux de son hygiène à la fois corporelle, mais aussi de l'hygiène de son château. Il faut savoir que Versailles est vraiment à la pointe de la technologie. Louis XIV a toujours recherché ce qui existait de mieux pour son palais. Et à Versailles, plus qu'ailleurs, parce que c'est un lieu nouveau, on le sait, même s'il a été construit au temps de Louis XIII, le château a été largement agrandi au temps de Louis XIV et a pris les dimensions que nous le connaissons aujourd'hui. Et dès le début, Louis XIV a eu un véritable souci qu'on retrouve à la fois dans les archives, mais aussi dans les lieux à Versailles, même s'il n'y a plus beaucoup de témoignages, puisque tout ce qui est objet du quotidien a coutume de disparaître, comme si aujourd'hui, évidemment, on ne prendrait pas l'habitude de conserver nos baignoires pour prouver dans 300 ans qu'on avait bel et bien des baignoires. Donc, si les baignoires n'existent plus, en revanche, les installations sont encore bien visibles et on a une véritable hygiène, y compris sous le règne de Louis XIV.
L'hygiène, Mathieu, implique l'arrivée d'eau. Et on sait que l'eau posait un problème à Louis XIV. Faire arriver de l'eau, ça n'était pas facile.
Effectivement, un des soucis majeurs de Louis XIV fut toujours de faire arriver de l'eau à Versailles, car on est dans un endroit où vraiment l'eau n'arrivait pas naturellement. On a eu l'habitude de dire que Louis XIV forçait la nature et qu'il avait vraiment engagé des millions de livres pour tous ces systèmes d'adduction d'eau. Alors on connaît vraiment très très bien les systèmes d'adduction d'eau pour tout ce qui concerne les fontaines, puisque Versailles est d'abord né avec les jeux d'eau, etc. Mais il y a aussi l'eau pour les usages quotidiens, c'est-à-dire l'eau pour à la fois pour la nourriture, mais aussi pour la toilette, les ablutions. Alors, on sait, d'après les travaux de Jean-Claude Le Guillou, notamment, qu'il y avait déjà un système d'arrivée d'eau courante au temps de Louis XIII. On a des marchés vraiment précis dans les années 1630 où on a une arrivée d'eau courante à Versailles. Par la suite, Louis XIV, en 1664, notamment avec son fontainier Claude Denis, il fait installer une pompe à la fois pour ses jardins, mais aussi lui demande d'adjoindre à côté une pompe vraiment pour les conduites d'eau bonne à boire, comme on appelait à l'époque. Alors, cette notion est assez ambiguë, puisque l'eau bonne à boire à l'époque, alors nos hygiénistes actuels s'en formaliseraient certainement, c'est une eau plus ou moins limpide et qui n'a pas d'odeur. Alors évidemment, on n'a pas les techniques actuelles pour analyser l'eau, mais on fait venir l'eau des rivières, puisque l'eau des étangs était considérée comme non bonne à boire. Donc, tout un système d'adduction d'eau qui se met progressivement en place au sein du château, notamment dans les années 1670, où Louis XIV construit des aqueducs souterrains d'eau bonne à boire qui arrivent dans le cœur même du château pour alimenter des points d'eau, fontaines, mais également, du moins fontaine au niveau de l'escalier des ambassadeurs, où on avait une fontaine, au niveau de la grotte de Tétis, et des eaux aussi pour l'usage quotidien, comme les ablutions.
Il y a aussi la fameuse machine de Marly-le-Roi.
Oui, alors après, là, on est vraiment dans des gros, gros systèmes d'adduction d'eau, parce que Louis XIV veut toujours beaucoup plus d'eau pour ses jardins. Donc, on commence à créer des étangs artificiels, des réservoirs d'eau, des grands aqueducs souterrains, mais tout ça vraiment pour drainer des grandes, grandes quantités d'eau qui sont vraiment pour usage des fontaines. Par ailleurs, Louis XIV a aussi le souci de l'hygiène de sa ville, puisqu'il y a de nombreux points d'eau bonne à boire en ville. Il y a 11 fontaines, notamment, qui sont installées assez rapidement, vers les années 1680-1685. La première grande fontaine de la ville, au moment où Louis XIV décide de faire de sa ville une ville florissante, c'est-à-dire dans les années 1671-72, une fontaine sur la place de la Fontaine, qui est devenue plus tard la place Dauphine, puis actuellement la place Hoche, donc accueillait des points d'eau pour l'ensemble des habitants de la ville.
Alors revenons à l'hygiène. Vous disiez tout à l'heure que Louis XIV en faisait une priorité. Est-ce que son entourage, et notamment les courtisans, suivaient cette hygiène ?
Alors, on a plusieurs cas, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont connues excessivement pour leur propreté, comme la princesse de Conti, et au contraire, du moins là je parle de chez les grands, hein, donc la princesse de Conti est connue vraiment pour une propreté excessive, au contraire du duc de Vendôme, qui lui, vraiment aussi, donc petit-fils d'Henri IV, passait lui pour quelqu'un de vraiment très très malpropre. Saint-Simon on décrit notamment une scène où on le voit en train de recevoir sur sa chaise percée, chose qui ne se faisait plus du tout à la cour, ou alors vraiment par habitude, mais même Louis XIV ne le faisait plus. Et lui recevait véritablement sur sa chaise, où il avait vraiment à y faire des choses. On changeait le bassin devant les gens, donc Saint-Simon nous parle, où on passait le bassin plein devant les visages de tous les personnages présents. Et on ne rinçait même pas le bassin, on mettait l'eau pour lui faire la barbe. Et il ne se souciait absolument pas, il couchait avec ses chiens dans son lit, etc. Et pour se dédouaner, il disait que tout le monde devait faire la même chose.
Alors dans votre prochain livre sur l'intendance au château de Versailles, vous citez une lettre de Bussy à Trichateau, le 18 mai 1680. « Je viens d'apprendre, dit de Bussy, je viens d'apprendre que le jour où le roi partit pour Saint-Germain, comme il montait en carrosse avec la reine, il eut de grosses paroles avec Madame de Montespan sur des senteurs dont elle est toujours chargée et qui font mal à sa majesté. »
Oui, parce que le roi a beaucoup aimé les senteurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment des récits lorsqu'il est plus jeune où il va se baigner dans des établissements de bains qui sont en fait plutôt des lieux de plaisir où on se faisait frictionner, etc. Et par la suite, le roi a été soumis à des migraines qui sont de plus en plus récurrentes. Et en 1680, il ne faut pas oublier qu'on est en plein dans l'histoire de l'affaire des poisons. Et Madame de Montespan est suspectée, même si Louis XIV refuse de croire qu'elle est impliquée dans cette célèbre affaire. Madame de Montespan, notamment Primi Visconti, raconte dans ses mémoires qu'elle avait l'habitude de se faire allonger toute nue, frictionnée par plusieurs parfums, et donc elle devait exhaler vraiment des senteurs très très fortes que Louis XIV ne supportait plus. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette lettre, et puis on est vraiment à une époque où Madame de Montespan est vraiment sur le déclin, et où Louis XIV ne la supporte plus uniquement parce qu'elle est la mère de près de 8 enfants qu'elle lui a donnés.
Oui, je renvoie, Mathieu, nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble, le portrait de Madame de Montespan. Nous sommes, Mathieu, près du cabinet du Conseil, derrière le cabinet du Conseil et également à côté de la cour des serres. Et nous sommes tout simplement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une salle de bain. On remarque un emplacement que l'on imagine être l'emplacement de la baignoire avec deux tuyaux. Et s'il y a du tuyau, c'est qu'il devait y avoir sûrement et de l'eau chaude et de l'eau froide.
Oui, alors nous sommes dans les salles de bain du 18e parce qu'il n'y avait pas de salle de bain au temps de Louis XIV. Alors je reviendrai certainement après sur la légende qui fait dire que Louis XIV n'a pris qu'un seul bain dans sa vie, ce qui est totalement faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'au temps de Louis XIV, il n'y avait pas de salle spécifique pour les bains. En revanche, au 18e, on commence à aménager des pièces spécifiques, dont celle-ci, où on a en fait l'emplacement de deux baignoires, l'une pour se laver et l'une pour se rincer. Avec effectivement arrivée eau chaude, eau froide. Je vous l'ai dit, au château, il y avait l'arrivée d'eau courante pour les appartements royaux, évidemment pas pour les simples courtisans. Arrivée d'eau froide, alors après, pour l'eau chaude, c'était tout simplement un système de cuve qu'on a au-dessus de cette pièce, où il y a une grande cuve avec un foyer en dessous, et on chauffait, et c'est par un système de descente, hein, il suffit d'avoir l'eau en dessus pour que l'eau arrive dans une pièce inférieure. Donc c'est vraiment le 18e siècle qui invente le système de pièces spécifiques pour l'hygiène.
Alors non seulement on se lavait, mais en plus on se rinçait. Donc là on bouleverse absolument toutes les idées reçues, puisqu'il y avait deux baignoires, aujourd'hui nous n'en avons qu'une seule.
Oui. Alors sous Louis XIV c'est un petit peu plus problématique parce qu'on a peur de l'eau. Pour ça, je peux vous renvoyer au travail de Georges Vigarello, notamment, qui a fait de très, très beaux ouvrages sur le propre et le sale, ou les choses, des titres comme cela. Il y a une peur vraiment de l'eau qui pénétrait On avait l'impression que l'eau pénétrait à travers la peau et conduisait non pas les microbes, parce qu'on n'a pas connaissance des microbes, mais les miasmes ou vraiment la maladie. Et on préfère la toilette sèche au XVIIe siècle, c'est-à-dire que le roi est frotté régulièrement avec des chiffons humides d'alcool lorsqu'il revient, et surtout la propreté à l'époque se comprend par la netteté. C'est-à-dire du linge propre et un visage et des mains propres. Alors évidemment, ce n'est pas très hygiénique de nos jours, mais on pouvait changer 5 fois de chemise dans la journée. Et l'important, c'était vraiment la netteté, c'est-à-dire un corps propre, un visage propre, des mains propres, c'est-à-dire les parties visibles du corps, avec un linge impeccable. Tout ce système s'est relayé vraiment par les traités, l'ensemble des traités de civilité qu'on a à l'époque, comme Nicolas Faret, qui date plutôt de l'époque de Louis XIII, avec L'honnête homme ou l'art de plaire à la cour, ou alors le traité de civilité française de Antoine de Courtin, où vraiment, là, c'est très, très bien expliquer ce qu'est la propreté. Alors, pour revenir sur les bains, Louis XIV a pris énormément de bains. Il a pris surtout des bains à la fois dans un premier temps dans sa jeunesse, dans les établissements dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les établissements de lieux de plaisir, mais ce qui n'empêche qu'il se baignait tout de même. Il a fait installer ici un superbe appartement des bains à Versailles, au rez-de-chaussée du côté nord, à l'angle du nord, sur le côté jardin. Ou pour ses amours avec Madame de Montespan, il fait installer cet appartement entre 1671 et 1680. Alors certes, c'est un lieu de divertissement, un lieu de prestige, ça n'empêche qu'il se baigne tout de même. Au moment où cet appartement sera transformé au moment de la disgrâce de Madame de Montespan, lorsqu'elle quittera son appartement du premier étage qui était contigu à celui du roi, il se fait aménager un autre appartement des bains au château de Marly qu'il est en train de construire. Et pareillement, c'est ce type de bain existait à Fontainebleau. Il prenait également des bains de chambre, on a des exemples vraiment très précis, alors, et il prenait surtout des bains de rivière, c'est-à-dire qu'il se baignait dans la nature, lorsqu'il se baignait dans la nature, on installait une tente et il y avait toute sa garde-robe et sa chambre, c'est-à-dire ses officiers de la garde-robe et de la chambre qui le suivaient pour les bains de rivière.
Les parfums sont importants hein, au XVIIe et au XVIIIe siècle?
Alors au XVIIe siècle, ils sont très importants, c'est-à-dire qu'on parfume les vêtements, on parfume les perruques, on parfume le linge. Vraiment, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, l'idée de netteté. Au XVIIIe siècle, je connais un peu moins bien, ça reste important, mais là, on n'hésite plus vraiment à se baigner.
Juste à côté de la salle de bain dont nous sortons, il y a un lieu historique qui est le lieu du cabinet de la chaise.
Oui, nous sommes dans le cabinet de la chaise, alors qu'il a bougé au XVIIIe siècle, mais dans ce passage qui va du cabinet du conseil et à l'autre bout qui rejoint au niveau du grand appartement du roi, c'est-à-dire au salon d'Apollon, on est au niveau du cabinet de la chaise qui a été installé en 1672, vraiment, c'est-à-dire un lieu retiré. Je vous disais tout à l'heure que le duc de Vendôme avait encore l'habitude de recevoir sur sa chaise. Ce que faisait Louis XIV vraiment par habitude encore au début de son règne, ce qu'il ne fera plus après que par privilège, c'est-à-dire que les gens avaient ce qu'on appelait un brevet d'affaires, c'est-à-dire le droit de voir le roi quand il était encore sur sa chaise, mais assez rapidement, dès 1672, on construit des lieux retirés où le roi va seul sur sa chaise de commodité. Et à ce propos, on a vraiment une anecdote très amusante en 1700, au moment où le deuxième petit-fils de Louis XIV est nommé comme roi d'Espagne. Il arrive à Madrid et l'équivalent de notre grand chambellan le suit aux toilettes et est prête à l'essuyer, etc. Et là, le duc d'Anjou est vraiment affolé, si bien que pendant 15 jours, il va se cacher pour aller aux toilettes, pour pas avoir à y aller avec quelqu'un qui l'accompagne. Donc vraiment, en France, on a cette notion où vraiment on se retire en son particulier pour aller sur sa chaise.
Nous entrons, Mathieu, dans le cabinet des dépêches et à chaque angle de ce cabinet se trouvent deux cabinets de toilettes, un à la française et un autre à l'anglaise.
Oui, nous sommes ici au niveau du cabinet des dépêches dans l'appartement intérieur de Louis XV, repris par Louis XV sur les anciens appartements de collectionneurs de Louis XIV. Et effectivement, ce cabinet renferme, donc on peut s'approcher, voir un cabinet vraiment de chaises à la française, c'est-à-dire qu'on aperçoit une chaise, c'est-à-dire qui est vraiment mobile, c'est vraiment le principe de la chaise française, c'est-à-dire ici un coffre qui se renferme avec une cuvette de moquette rouge. et qui est mobile. En revanche, de l'autre côté, nous avons vraiment des toilettes qu'on appelle dites à l'anglaise, c'est-à-dire que le système a été instauré là, vraiment en 1738, avec un mobilier encastré, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus, et un système de jet d'eau pour l'évacuation des eaux usées.
Donc, deux systèmes bien distincts de toilettes. Visiblement, de ce que vous nous dites, c'est la chaise anglaise qui va en quelque sorte prendre le dessus avec ce fameux système d'évacuation d'eau.
Oui, complètement. C'est-à-dire que bon, la chaise à la française conservera son utilité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, puisqu'on aura toujours des officiers qu'on appelait des porte-chaises. Effectivement, le système anglais, qui s'appelait déjà water closet à l'époque, va prendre le dessus au cours du XVIIIe siècle et évidemment au XIXe siècle.
Alors, vous parliez de l'évacuation, il y a également l'eau usée, hein, des baignoires. Hein. Nous avons vu qu'il existait deux types de baignoires, une pour se laver, une pour se rincer. Où vont, où sont évacuées les eaux usées ?
Alors, effectivement, on pourrait se dire, comme à Paris, que les eaux étaient balancées par la fenêtre, d'une façon où on disait « gare l'eau » pour prévenir les gens que l'eau arrivait. En revanche, à Versailles, on a un système de fausse d'aisance qui est implanté assez rapidement. Alors, on en a dès les années 1680, mais j'ai retrouvé un document de 1710 qui référence pas moins de 35 fosses d'aisance sous l'ensemble du château, où vraiment on a un système d'évacuation de tout à l'égout, avec un système d'aqueduc souterrain, où l'eau, en revanche, là, pour le coup, est reversée dans les bassins qui sont utilisés pour les eaux. Donc l'eau usée est recyclée pour les eaux des fontaines du jardin.
Alors tout cet ensemble constitue une infrastructure finalement à entretenir. Hein. Nous avons parlé des tuyauteries, nous avons parlé des aqueducs souterrains, des fosses. Qui gérait cet entretien ? Comment se passait cet entretien ?
Alors gérer cet ensemble était vraiment très très important. Et répondre à cette question, c'est l'objet de tout mon livre. Et justement, c'est très très compliqué puisqu'il y a différents services qui sont mis à contribution. On a des contrats d'entretien qui sont gérés à la fois par la surintendance des bâtiments. On a vraiment l'intérieur du château qui est géré par l'intendant du château, en l'occurrence un premier valet de chambre sous l'époque de Louis XIV et au début du règne de Louis XV. On a également les officiers du garde-meuble pour tout ce qui concerne le mobilier. On a la prévôté de l'hôtel pour tout ce qui concerne la surveillance du château. Donc on a vraiment un ensemble de services qui sont en jeu pour gérer ce qui est vraiment tout un domaine immense qui accueille près de 4000 personnes. Donc c'est vraiment une co-gestion et j'espère pouvoir répondre dans mon livre vraiment à la grande question qui dirigeait Versailles, mais je ne pense pas que ce soit qu'une seule personne si ce n'est le roi.
Merci Mathieu pour cette présentation du monde de l'hygiène et du confort au château de Versailles. Il s'agissait de la quatrième et dernière émission consacrée à la visite du château de Versailles, ses lieux et ses thèmes. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire.